au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 2 mars, une très belle journée, mais vraiment pas chaude. Le moins 8 actuellement au cœur de Lanaudière à l'émission aujourd'hui. Hugo Valiquette, directeur de la table régionale des organismes communautaires. Il sera question de la grève du milieu communautaire là, qui approche. Avec Jacques Plante, on va parler de plusieurs députés provinciaux là, qui préparent leur sortie. Aussi à l'émission, Geneviève Rinfrette, elle est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm. On va parler des jeunes de 14 à 16 ans. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, sera avec nous. Il sera question de la médiation obligatoire et de l'arbitrage. Mais tout d'abord, le conflit armé en Iran déclenché par les États-Unis et Israël risque fort de perdurer dans le temps, alors que les forces en présence sont dotées d'un fort arsenal, faut le mentionner, autant du côté des États-Unis que de l'Iran. Et François Morin fait le point là-dessus avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger.
Non, effectivement, on l'a parfois dit que dans certaines décisions, on l'appelait taco, Trump always chickens out, Trump finit toujours par cligner des yeux et ne pas le faire ce qu'il avait dit. Ici, il avait donné un délai à l'Iran pour arriver à une entente. Sinon, qu'il y aurait des conséquences terribles. Les conséquences terribles, c'est assez clair. Soit qu'on faisait référence du fait notamment que depuis les dernières semaines, des forces militaires importantes américaines ont été mobilisées proches de l'Iran. Donc, le message était très clair. Il n'y a pas eu d'entente. Et donc, ben il y a cette intervention militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Avec une volonté affichée explicitement de vouloir renverser le régime politique en Iran. Et déjà, dès les premières frappes, on a assassiné celui qui était dans les faits le chef d'État de l'Iran, l'Ayatollah. Donc, dans une volonté justement de permettre plus facilement un changement de régime, à tout le moins... En éliminant celui qui était l'acteur politique de premier plan. Donc forcément, même si les choses arrêtaient aujourd'hui, on n'aurait pas tout à fait le même leadership politique en Iran, ne serait-ce que du numéro un. Mais évidemment, le souhait de Donald Trump, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça, que la population se soulève et renverse le gouvernement dans son ensemble de l'Iran, ce qui est un souhait d'une partie significative de la population en Iran, on le sait. Est-ce que ça va se réaliser maintenant? Ça, c'est une autre question. Dans ce genre de situation-là, bien malin qui peut prédire ce qui va arriver, ça peut aller dans tous les sens, d'un extrême à l'autre. Mais clairement, l'Iran est actuellement dans un contexte où son leadership est très fragilisé, mais en même temps, où toutes les lignes rouges ont été franchies et où l'Iran n'a à peu près plus rien à perdre maintenant. C'est pour ça qu'il y a une annonce comme de quoi que le gouvernement actuel de l'Iran ne souhaitait plus négocier avec les États-Unis. On est dans un contexte d'utilisation de la force. C'est pour ça que l'Iran aussi a frappé en Israël, qui a mobilisé ses alliés, par exemple le Hezbollah au Liban contre Israël, a tenté de frapper des bases américaines dans quelques pays voisins qui abritent de telles bases. Donc, on est dans un contexte clairement de guerre et présentement, la seule certitude qu'on a, c'est que des gens, malheureusement, vont mourir.
Et outre la durée du conflit qui peut être longue, il peut avoir des répercussions au-delà même de ce que j'appellerais là, le territoire régional. C'est qu'il y a des gens à l'extérieur de l'Iran qui vivent entre autres au Canada, qui étaient en faveur du régime iranien. Et là, ça peut poser problème.
L'Iran n'a jamais été dans une logique de comme on a pu voir au début du siècle avec Al-Qaïda, par exemple, d'essayer d'organiser des attentats terroristes massifs ailleurs, surtout loin. Plus proche, là, si on parle d'Israël, justement, ou dans les pays autour, c'est une autre histoire. Mais pour nous, au Canada, localement, ça n'a jamais été la stratégie de l'Iran. Est-ce que des individus spécifiquement peuvent agir? Si on n'est jamais à l'abri de ça. Est-ce que particulièrement le régime peut tenter maintenant de mobiliser des agents qu'il a ailleurs pour cibler des individus spécifiques qui peuvent contribuer d'une façon ou d'une autre à être critiques envers le régime? Ça aussi, c'est une inquiétude. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, au Canada, concrètement, de notre sécurité physique, il n'y a pas de raison de s'inquiéter présentement. Pour certaines personnes qui ont des liens avec l'Iran, là, oui, le niveau d'inquiétude est plus élevé. Et dans ce contexte-là, en même temps, c'est très difficile présentement de savoir à quel point l'Iran va être capable de mobiliser des gens, justement, ailleurs, à l'étranger, pour commettre des gestes, pour viser certains individus. Puisque, justement, ces moyens sont plus difficiles maintenant, suite au bombardement, que ce que c'était le cas il y a quelques semaines. L'autre impact, évidemment, que ça a sur nous au Canada, plus directement, c'est pour, là, un peu, monsieur tout le monde, c'est pas la sécurité physique, mais le prix de l'essence, puisque ce conflit-là fait augmenter inévitablement le prix du pétrole, c'est déjà commencé, et donc souvent ça va se refléter après ça au prix à la pompe, du fait que ça déstabilise la région, du fait particulièrement qu'il y a un détroit important, le détroit d'Ormuz, par lequel passe énormément du pétrole de la région, qui est une région importante, on sait, le Moyen-Orient, pour la production du pétrole mondial. Donc, beaucoup de pétrole qui passe par là pour aller nourrir un peu partout sur la planète. Et donc, ben, ça va avoir un impact, même si on importe peu de pétrole de là-bas, ça a un impact indirectement sur l'ensemble des prix du pétrole de la planète. Ce conflit-là, à quel point que ça va avoir un impact aux États-Unis, ça va être au niveau politique, ça va être un autre enjeu à surveiller au courant des prochaines semaines et des prochains mois, avec et les enjeux économiques et des gens de l'armée américaine qui vont mourir. C'est déjà commencé.
En terminant, on peut quand même remarquer que Mark Carney n'aura pas perdu de temps là, à réagir et à prendre position là, en faveur de l'intervention américaine.
Effectivement, dès rapidement, il a pris position en faveur et ça a fait réagir beaucoup de gens, donc ses adversaires politiques, d'un bout du spectre à l'autre, d'une condamnation à un soutien. Donc, plus on était à gauche, plus on était dans une condamnation ou des nuances, à tout le moins, les conservateurs plutôt favorables. Il y a personne, puis on le répète, qui va pleurer la fin de ce régime-là, ça arrive, ou certainement le décès de l'Ayatollah Khamenei, parce que c'était... Il était réputé pour être un dictateur, pour diriger un régime qui a opprimé sa population, pas juste politiquement, là, mais en tuant beaucoup de sa population, en réprimant dans le sang toute contestation. Donc, il n'y a pas grand monde qui vont pleurer son décès. Cela dit, est-ce que c'était la bonne stratégie de faire cette attaque-là? Est-ce que c'était le bon moment? Sans soutien aussi international, sans soutien du Congrès américain, sans soutien de l'ONU, ou au moins une coalition significative, là, il n'y a rien de tout ça. Et c'est ça qui inquiète beaucoup plusieurs observateurs qui sont critiques envers la déclaration de Mark Carney, qu'il devra, il est en tournée internationale présentement, en Inde en particulier, mais à son retour, qu'il va être questionné là-dessus pour plus préciser pourquoi il a pris cette position-là et aussi rapidement, et avec moins de nuances que d'autres pays, par exemple la France ou l'Allemagne. Et ça contraste cette déclaration-là avec sa fameuse déclaration de Davos, dans laquelle il condamnait les gestes unilatéraux de certaines puissances, par exemple les États-Unis, même si ça n'avait pas été nommé. Ben là, c'est ça qu'on voit, une grande puissance qui en frappe une plus petite, même si c'est un régime qu'on n'aimait pas. Donc, des éclaircissements à avoir aussi au niveau politique à l'interne.
Voilà, c'était notre analyste politique Mathieu Bélanger avec qui François Morin s'est entretenu un peu plus tôt, là, si vous voulez. Mon opinion, j'ai l'impression que Trump se magasine là, un second 11 septembre avec tout ça. Il est 16h14, dans un instant, le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
Vous cherchez un entrepreneur pour tous vos besoins en climatisation, réfrigération, chauffage ou ventilation? Ne cherchez plus! Turcotte Réfrigération de Saint-Cuthbert, c'est plus de 30 ans d'expertise à votre service partout dans la Naudière et les environs. Résidentiel ou commercial, l'équipe expérimentée de Turcotte Réfrigération s'adapte à tous vos besoins, sans oublier un service courtois et toujours personnalisé. Faites confiance à une entreprise familiale vous offrant les meilleures marques, telles que Gree, Mover et plusieurs autres. Turcotte Réfrigération, 450-836-7009.
Ici Pascal Babin. Le Festival Saint-Patrick de Radon, présenté par la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Waro, est de retour. La municipalité vous propose un week-end festif de tradition irlandaise du 13 au 15 mars. Des soirées animées, des activités pour toute la famille durant 3 jours. Et ça se termine le dimanche avec la traditionnelle parade dans les rues de Radon dès 14h. N'arrivez tôt, puisque plusieurs activités sont prévues avant, pendant et même après la parade. La municipalité tient à remercier chaleureusement ses partenaires. Visitez le radon.ca pour plus de détails.
Dans la Naudière, on prend le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer, ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand.
Lanaudière PM. Justice.
Il est 16h16. La médiation obligatoire et l'arbitrage sont de nouveaux outils au tribunal des petites créances de Joliette et de Terrebonne. Et le ministre de la Justice annonce le déploiement de la médiation obligatoire et de l'arbitrage automatique pour les dossiers de 5 000 $ et moins. Pierre Jubinville en a discuté avec le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette.
Alors, vous annoncez aujourd'hui une réforme assez importante des modalités des petites créances. On veut accélérer le règlement des litiges. Alors, quelles sont ces nouvelles modalités?
En fait, ce qu'on implante dans le district de Joliette et puis dans le district de Terrebonne, donc Palais de justice de Joliette, Palais de justice de Saint-Jérôme, c'est le fait d'imposer la médiation obligatoire aux petites créances pour les dossiers de 5 000 $ et moins. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est pour s'assurer que les dossiers peuvent être réglés beaucoup plus rapidement avec l'aide d'un médiateur. Donc, au lieu d'aller devant le juge, on va devoir passer obligatoirement devant le médiateur. Et ça va nous permettre de régler près de 60% des dossiers avant d'aller devant le juge.
Et si ça ne fonctionne pas, il y a un autre mécanisme,
hein? Ben, par la suite, il y a un autre mécanisme. On peut aller en arbitrage automatique, donc avec un avocat ou un notaire qui va pouvoir rendre décision. Et ultimement, on pourrait décider de refuser l'arbitrage d'aller devant le juge, mais la majorité des dossiers vont être soit réglés en médiation, soit réglés en arbitrage, ce qui fait en sorte que nos délais aux petites créances pour les dossiers de 5 000 $ et moins, mais vous savez, à Joliette, c'est 28 mois actuellement. Dans le district de Terrebonne, à Saint-Jérôme, c'est 38 mois. Et nous, avec la médiation obligatoire, l'arbitrage automatique, on vise des délais d'environ 6 mois. Donc, vous savez, des dossiers aux petites créances, c'est des dossiers que les gens pensent à tous les jours, des dossiers qui touchent leur vie quotidienne. Ça peut être une chicane de voisins, un montant d'argent qui réclame un entrepreneur, des travaux qui n'ont pas été faits ou qui ont été mal exécutés. Alors, je pense que c'est important d'avoir une justice qui est efficace, qui est accessible et qui est rapide. Et donc, avec cette façon-là, avec un mode alternatif de règlement du dossier, mais les gens participent directement à la solution de leur litige en participant à la médiation.
Si votre dossier se retrouve en arbitrage, il pourrait être traité en priorité, si j'ai bien compris.
Ben c'est ça, on commence par la médiation devant un avocat ou un notaire qui essaie de rapprocher les parties pendant 3 heures. Si jamais il n'y a pas de solution qui est convenue, à ce moment-là, on s'en va en arbitrage. Et là, l'arbitre rend une décision en fonction des arguments qui lui sont présentés. C'est comme si on allait devant le juge et ça nous permet d'avoir un règlement du dossier beaucoup plus rapidement.
Ce ne sont pas toutes les régions qui bénéficient de ces nouvelles modalités?
Ben écoutez, là, on est rendu à ouvrir dans les districts de Joliette, dans les districts de Terrebonne. Donc, on est vers la fin du déploiement. C'est un investissement de 40 millions de dollars qu'on a fait. Et je peux vous dire qu'on a des très beaux succès. Partout où on l'a développé, en moyenne, on a un taux de règlement de dossier de 60% en médiation. Ça veut dire que les gens avant attendaient plusieurs mois, voire des années avant que leur dossier soit appelé à la cour. Maintenant, on leur dit, ben écoutez, lorsque vous ouvrez un dossier aux petites créances pour faire valoir vos droits, on offre la médiation gratuitement. Ça permet de participer à la solution, de régler 3 dossiers sur 5 à ce niveau-là et ensuite d'aller en arbitrage plus rapidement, ce qui a un effet bénéfique aussi pour le système de justice parce que pendant ce temps-là que les juges n'entendent pas des dossiers de créance, ils peuvent se consacrer à des dossiers plus complexes sur le plan juridique ou d'une valeur monétaire supérieure. Alors, c'est gagnant à la fois pour les citoyens et gagnant pour le système de justice parce que ça réduit les délais.
Quel genre de litige on traite-t-on habituellement devant ce tribunal?
En fait, tous les litiges peuvent être traités, pour autant que la valeur monétaire soit de 5 000 $ et moins actuellement. Vous savez, les petites créances, ça va jusqu'à 15 000 $. Donc, on est dans la première phase de déploiement à 5 000 $ et moins. Donc, chienne de voisin, prêt d'argent, travaux de construction dès que votre réclamation monétaire est de moins de 5 000 $. Et ce qu'il faut dire également, c'est qu'aux petites créances, il n'y a pas d'avocat. Donc, jusqu'à 15 000 $, il n'y a pas d'avocat devant la cour. Et là, ça permet aux parties de parler, de discuter. Puis vous savez, bien souvent, les gens veulent être surtout entendus par l'autre partie. Et c'est ce que ça permet de faire, la médiation, d'asseoir les deux parties autour de la table, d'écouter les arguments de part et d'autre, et peut-être parfois de trouver une solution ensemble. C'est plus bénéfique que traîner le dossier pendant des mois et des mois, puis d'obtenir satisfaction et de participer à la solution du litige. C'est vraiment une mesure d'accès à la justice, parce que vous savez, notre système de justice, là, c'est un service public, il faut qu'il soit efficace, accessible et humain. Ça va dans ce sens-là, les mesures qu'on met en place.
Et pour les causes qui dépassent 5 000 $, le principe de médiation ne s'applique pas encore?
Ben, en fait, on offre la médiation. Alors, les parties qui veulent la prendre peuvent la prendre, mais c'est pas une médiation qui est obligatoire. Éventuellement, ça va le devenir, mais on commence par déployer les dossiers à partir de 5 000 $ et moins, qui représentent 50% des dossiers aux petites créances.
Et comment s'y prend-on pour faire appliquer le jugement? On nous pose souvent la question.
Mais en termes de médiation, c'est convenu entre les parties, c'est un accord entre les parties. Pour ce qui est, supposons, d'une sentence arbitrale, lorsqu'on va devant l'arbitre, bien là, le dossier peut être déposé devant la cour et ça devient comme l'équivalent d'un jugement. Donc, on peut le faire exécuter par huissier si jamais l'autre partie était condamnée à nous payer, supposons, 200 $ puis qu'il ne le paye pas, mais on peut le faire exécuter avec un huissier.
Les Québécois sont-ils toujours aussi nombreux à avoir recours aux petites créances pour régler leurs conflits?
Ben, vous savez, c'est très populaire et puis j'encourage les gens aussi à faire valoir leurs droits, à faire une demande aux petites créances lorsqu'il y a un litige, mais pour éviter de judiciariser le dossier à outrance, c'est pour ça qu'on choisit la médiation. Parce que c'est important de faire respecter ses droits, c'est important de se faire entendre, mais la médiation gratuite, comme on le propose, ben, permet justement d'avoir accès à la justice à faible coût et surtout que ça aille rapidement pour pouvoir tourner la page puis passer à autre chose parce que c'est pas normal que les gens attendent 2-3 ans à penser à leur dossier. Ça peut être stressant, ça peut être fatigant, ça peut être également angoissant. Alors nous, on veut régler les choses rapidement au bénéfice des citoyens.
Bon, voilà. Sur papier, l'idée peut être bonne. Reste à voir si, concrètement, on réussira à désengorger le système de justice là par cette mesure. C'était le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, avec qui Pierre Jubainville s'entretenait. Ailleurs, dans l'actualité, un expert en aviation craint des actes terroristes dans le transport aérien à la suite de l'attaque contre l'Iran. John Gradeck souligne que l'Iran a été lié à de tels actes par le passé. Comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai l'impression que Donald Trump là, se prépare à un nouveau 11 septembre.
On a vraiment mis en place certaines mesures pour nous protéger, mais la protection, ça fait une vingtaine d'années, 25 ans qu'on n'a pas eu ces actes d'une façon régulière. D'abord, c'est quelque chose sur lequel moi je m'inquiète. La sécurité, la gestion de risques qu'on a en prenant des voyages, surtout avec les transporteurs américains, si vous voulez.
Et le chargé de cours à l'Université McGill estime aussi que l'approvisionnement de plusieurs marchandises risque de coûter plus cher si les avions qui les transportent doivent modifier leur trajet durant plusieurs semaines là, pour éviter les secteurs en guerre. Le Conseil national des musulmans canadiens a tenu aujourd'hui une conférence de presse à Ottawa pour discuter des répercussions de la loi 94 au Québec. Cette loi qui élargit l'interdiction du port de signes religieux dans les écoles québécoises. Des travailleurs, des travailleuses québécois ainsi que des mères touchées par cette loi qui ont pris la parole. Le PDG du Conseil national des musulmans canadiens, Stephen Brown, est revenu sur ce qui a entraîné la mise en place de cette loi. On l'écoute.
Les citoyennes et les citoyens canadiens se voient refuser des services, perdre leur emploi et se voient refuser l'accès à des postes. Non pas en raison d'incompétence, non pas en raison d'une faute, mais uniquement à cause qui ils sont et de leur apparence. Cela signifie que des femmes sont contraintes de retirer leur hijab ou d'abandonner leur poste. Cela signifie que des citoyennes se font dire que leur foi les disqualifie de la participation à la vie civique.
Scène policière maintenant. La police de Montréal confirme que l'homme de 18 ans trouvé blessé dans un logement dans la nuit de dimanche a été victime d'un meurtre. Il était inconscient avec une blessure au haut du corps et a succombé à l'hôpital à au moins un projectile d'arme à feu. Un appel au 911 vers 1h45 avait conduit là, les policiers dans un logement de la rue Saint-André près de la rue Ontario là, dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est le troisième meurtre de l'année sur le territoire du SPVM. L'enquête se poursuit et il n'y a pas eu d'arrestation dans ce dossier-là. Et puis en terminant, tiens, selon Radio-Canada, les demandes d'assistance auprès de CAA Québec ont bondi de 48% par rapport à l'hiver dernier. Ça, c'est dans la région de Montréal. Entre le 9 janvier et le 24 février, CAA Québec a secouru 3526 automobilistes montréalais pour une crevaison, ce qui représente une moyenne de 75 interventions par jour. Et ça, ça ressemble pas mal à du nid de poule, là. À l'échelle du Québec, la hausse est de 28% pour un total de 8698 dépannages. Et bien que ces appels ne concernent pas exclusivement là, les nids de poule, CAA Québec estime qu'un lien de cause à effet peut être établi avec, évidemment, l'état de la chaussée. Et entre le 1er janvier et le 15 février de cette année, 5556 requêtes ont été signalées au 311, le 311, là, en lien avec des nids de poules. Il est 16h27. Coup d'œil à la circulation, la métropolitaine pour Charles de Gaulle. C'est légèrement dense à partir du boulevard du Tricentenaire et ça jusqu'à l'approche du pont d'étagement du CN. Mais pour la suite des choses, là, ça va quand même assez bien. On franchit aisément la rivière des Prairies. Du côté de la Rive-Nord, oui, assez facile. 40 Est, Repentigny, on roule sans problème. Pont Le Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame, la 25 Nord. Un petit peu plus nombreux, secteur de la jonction avec la 440, sinon du côté de l'île Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, 25 Nord, ça va bien. Pont Sophie-Masson facile en ce moment et finalement autoroute 640 entre la 25 et la 40. Direction Est, ça devient légèrement dense là, à l'approche de la montée des Pionniers pour la 40 et en direction Ouest, on circule sans entrave. L'actualité avec Pierre Jubinville dans un instant.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5000$ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Didas, dépanneur des Lacs. À Saint-Édouard de Masquinongé, quincaillerie dépanneur 348. À Saint-Angèle-de-Prémont, épicerie Jacques Lessard. À Saint-Ursule, dépanneur Marie-Lou. À Saint-Alexis-des-Monts, dépanneur Beaussoir. À Saint-Paulin, boucherie 4 saisons. Et à Louisville, tabagie Grand-Père. Dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Dans la Naudière, on prend le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer ensemble. Fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand.
Ici Pascal Babin. Le Festival Saint-Patrick de Radon, présenté par la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Waro, est de retour. La municipalité vous propose un week-end festif de tradition irlandaise du 13 au 15 mars. Des soirées animées et des activités pour toute la famille durant 3 jours. Et ça se termine le dimanche avec la traditionnelle parade dans les rues de Radon dès 14h. Mais arrivez tôt, puisque plusieurs activités sont prévues avant, pendant et même après la parade. La municipalité tient à remercier chaleureusement ses partenaires. Visitez le radon.ca pour plus de détails.
La saison déroule pour gagner de Tim et Tancourt. On prévoit une tempête de prix avec entre autres des vacances sell-off tout inclus et des pontons SunTracker 2026 Bass Pro Shops. Jouez sur le gobelet et sur l'appli jusqu'au 22 mars. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli.
L'actualité de ce lundi 2 mars en manchette. Israël n'écarte pas une offensive terrestre. Pas d'autre mandat pour Caroline Proulx dans Berthier. Et les libéraux fédéraux de plus en plus en territoire majoritaire. Et Pierre Jubainville, tout d'abord, une troisième journée de bombardement en Iran et au Liban.
Oui, les États-Unis et Israël continuent de mener une offensive à une très grande échelle. On parle jusqu'à maintenant de 1250 cibles qui ont été atteintes depuis samedi. Donald Trump affirme d'ailleurs que l'opération progresse plus rapidement que prévu. Il n'a pas écarté l'envoi des troupes au sol. Pendant ce temps-là, le Liban a subi des frappes israéliennes. On parle de 70 cibles du Hezbollah, dont une association qui finance une organisation terroriste. Le résumé de la journée avec Philippe Bonneville.
C'est notre dernière occasion et la meilleure d'éliminer l'intolérable menace provenant du régime iranien, affirme Donald Trump. Un terrible régime terroriste, a-t-il ajouté.
This was our last best chance to strike.
Et tout va plus vite que prévu, soutient le président américain. À preuve, dit-il, il n'a fallu qu'une heure plutôt que plusieurs semaines pour bombarder et décapiter le commandement militaire iranien.
We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there.
L'opération militaire de grande envergure va durer encore au moins 4 ou 5 semaines, selon Donald Trump, peut-être même davantage. Et selon lui, les plus grandes vagues de bombardements n'ont pas encore eu lieu. Et il n'exclut pas d'envoyer des soldats au sol en Iran. Philippe Bonneville pour Cogeco Nouvelles.
Mais malgré tout, Pierre, un changement de régime là, n'est pas pour demain.
Non, selon le professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa, Thomas Junot, a instauré un changement de régime n'est pas le principal objectif des États-Unis dans cette opération. M. Junot estime que cela pourrait même nuire aux aspirations du peuple iranien.
Le changement de régime pour fonctionner va devoir venir de l'intérieur. Mais le problème, c'est que la population iranienne est épuisée et tant que le régime ne tombe pas, il maintient une capacité répressive importante. Un des scénarios qui me fait peur, c'est que les États-Unis arrêtent, disent à la population, allez manifester dans la rue. La population va manifester dans la rue. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Elle se fait massacrer par un régime qui n'est pas encore à bout de capacité répressive.
Et qui dit guerre au Moyen-Orient dit hausse du prix du pétrole.
Oui, le porte-parole du CAA Québec, Simon Bourassa, affirme que ça ne sera pas très long avant que les prix à la pompe montent. Le conflit a entraîné aujourd'hui une hausse de 8% des prix du pétrole sur les marchés. Près de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole transite d'ailleurs par le détroit d'Ormuz.
Moment où le coût d'acquisition, donc le coût à la rampe de chargement de l'essence raffinée va augmenter et que les essenceries et les différents distributeurs vont devoir se réapprovisionner. À ce moment-là, le prix va changer, puis on va voir ça cette semaine.
Scène provinciale de départ de la politique, Vincent Marissal, mais tout d'abord, Caroline Proulx.
Après 2 mandats, Mme Proulx ne sollicitera pas un autre mandat en octobre. Elle affirme qu'elle va continuer à assumer ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat. Donc, en octobre, elle avoue que son passage comme ministre des Aînés a été plutôt difficile, alors que sa nomination est survenue alors qu'elle a perdu sa mère de façon tragique. Et il y a le député de Rosemont, ex-membre du caucus de Québec solidaire, Vincent Marissal, qui ne sollicitera pas non plus de mandat. Sur Facebook, il a écrit avoir besoin de sortir de l'omniprésent projecteur de la vie publique.
On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Jacques Plante. Il y a les libéraux fédéraux de Mark Carney là, qui continuent de progresser dans les sondages.
Ouais, un autre sondage QC125 leur donne 190 députés. C'est 3 fois plus que lors des projections publiées le 22 février. Les conservateurs suivent avec 120 députés, c'est 8 de moins. Le Bloc québécois 26, ça demeure inchangé. Le NPD 6 et le Parti vert 1.
Et finalement, de nouveaux outils pour le tribunal des petites créances.
Oui, 2 nouveaux mécanismes pour accélérer le traitement des causes, la médiation obligatoire et ensuite l'arbitrage automatique pour les dossiers de 5 000 $ et moins. 2 outils qui seront déployés dans les districts de Joliette et Terrebonne. Et si aucune entente n'est conclue au terme de ce processus en médiation, le dossier est automatiquement transféré en arbitrage. En procédant ainsi, Québec veut réduire considérablement les délais pour rendre une décision. On écoute le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette.
Je fais en sorte que nos délais aux petites créances pour les dossiers de 5 000 $ et moins, mais vous savez, à Joliette, c'est 28 mois actuellement. Dans le district de Terrebonne, à Saint-Jérôme, c'est 38 mois. Et nous, avec la médiation obligatoire, l'arbitrage automatique, on vise des délais d'environ 6 mois.
Ben, Pierre Jubinville, merci beaucoup.
Bonne soirée, Claude.
Il est 16h35.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel. Lanaudière PM. Éducation.
La MRC de Montcalm et le Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm présentent les résultats de la phase 1 du projet Phare. C'est une initiative qui vise à mieux comprendre la réalité des jeunes 14 à 16 ans qui vivent une situation d'absentéisme scolaire chronique sur le territoire. Les résultats sont quand même inquiétants selon la directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi Montcalm, Geneviève Rinfrette, à qui François Morin a eu l'occasion de parler.
On a fait le mandat d'interviewer une quinzaine de jeunes qui fréquentent nos secondaires du territoire, là, c'est-à-dire Lachigan et Havre Jeunesse. Et là, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les motive à s'absenter aussi souvent. Là, je vais faire une petite nuance. Quand on parle d'absentisme scolaire chronique, on fait référence à des jeunes qui vont s'absenter plus d'une centaine de fois. Considérant qu'il y a 180 jours d'école dans une année scolaire, vous comprendrez que c'est des absences ici relativement importantes, très, très nombreuses. Donc, l'idée, c'était d'aller documenter qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là s'absentent aussi souvent de l'école. Et là, bien évidemment, il y a des éléments qui sont ressortis qui ne sont pas nécessairement nouveaux, mais qui sont venus confirmer un aspect qui est là, qui est très présent, c'est-à-dire que il y a une absence de sens pour certains élèves. Donc, qu'est-ce qui fait que je ne vais pas à l'école? Je vais dans mon cours de français, je vais dans mon cours de mathématiques, on m'enseigne Pythagore, mais concrètement, ça va me servir à quoi plus tard? Est-ce qu'on peut me montrer dans le cadre d'un projet précis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, le faire du sens pour les jeunes. Un autre élément qui est encore là, on ne réinvente pas la roue, c'est tout le lien élève-enseignant. Donc, on fait souvent le parallèle avec le primaire et le secondaire. Donc, au primaire, on sait que on va être dans une classe, puis ça va être le même enseignant qui va nous accompagner. On va évoluer avec les mêmes élèves pendant toute une année. Quand on arrive au secondaire, ben là, on change d'enseignant à chacun de nos cours. Ça fait en sorte que les enseignants ont souvent des centaines d'élèves à suivre. Et ça rend difficile la notion de création de lien. Puis ça rend encore plus difficile aussi de s'apercevoir qu'un élève est absent aussi fréquemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a été capable de faire une corrélation avec un portrait qui avait été réalisé en 2021-2022. Dans le cadre de la grappe éducative, où on était allé à la rencontre de jeunes qui ont décroché, encore là, sur notre territoire, donc qui ont fréquenté nos deux écoles secondaires et qui avaient décroché en 2016 et 2021. Et ce qui est ressorti dans cette étude-là, c'est exactement ce qui ressort dans l'étude, dans le portrait fort qu'on réalise. Donc, on peut prétendre que les élèves qui s'absentent de façon très importante actuellement, ce sont d'éventuels décrocheurs et évidemment, on ne veut pas se rendre là.
Et ce que la beauté de l'histoire, c'est qu'il y a quand même des pistes de solutions qui seraient possibles de mettre de l'avant là, quand même assez rapidement.
Tout à fait. Donc, nous, on a ressorti quand même quatre pistes. Et de ces quatre pistes-là, il y en a deux qui ont été discutées avec les écoles secondaires parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mécanisme de suivi qui permettait de détecter rapidement quand un élève s'absente. Et là, ici, je m'explique. Donc, un élève, je vais prendre l'exemple de Steve, ne se présente pas dans son cours de français. Et après ça, s'il ne se présente pas dans son cours de maths, c'est pas nécessairement le même enseignant. Donc, les enseignants vont prendre les précisions. La direction va faire le suivi par la suite. Mais il n'y a pas de système informatisé qui permet de détecter que si je tape le nom de Steve, par exemple, j'ai X nombre d'absences qui ressort. Et ça fait en sorte que parfois, c'est long avant qu'on s'aperçoive que le fameux Steve en question cumule de nombreuses absences. Donc ça, c'est un des éléments qui est ressorti, d'être capable de se doter d'un outil qui va nous permettre d'agir en amont. Parce que plus on va détecter rapidement un élève qui s'absente, plus on va être capable de le prendre en charge. Parce qu'un des éléments qui est ressorti dans l'étude, c'est aussi le fait qu'à un moment donné, je me suis absentée tellement souvent que pourquoi j'irai à l'école? Parce que de toute façon, je suis en échec et de toute façon, mon année scolaire, elle est déjà échouée. L'autre élément, c'était d'être capable de travailler, je dirais, davantage en collégialité, en cohésion. Le fameux école, famille, communauté dont on parle si souvent, ben, on a beau en parler, des fois dans la mise en place, c'est là que c'est plus difficile. Je vous dirais que depuis avril dernier, avec la mise en place du projet phare, la phase 1, ben, ça nous a permis de l'établir avec les écoles secondaires. Et ça, c'est drôlement intéressant parce que maintenant, le Carrefour est impliqué directement dans tous les comités, réflexion stratégique, développement d'un projet, la mise en place justement de la structure informatisée qu'on souhaite développer pour être capable de faire un suivi plus chronique des absences. Ben, le Carrefour est déjà systématiquement impliqué dans ces rencontres-là, ce qui n'avait pas lieu avant. Et ben évidemment, dans les pistes de solutions, il y a aussi toute la notion de donner du sens lorsqu'on est en apprentissage. Donc, l'apprentissage par projet, quand on parle de classe alternative, de classe laboratoire, c'est des exemples. Est-ce que ça viendra éventuellement? Oui, probablement. Là, il fallait quand même choisir certaines options, choisir certaines conclusions qu'on souhaitait mettre en application pour la prochaine phase. On y va par étapes, hein, parce qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, notre prochaine étape pour la phase 2 du projet sera vraiment de travailler en collaboration avec les écoles pour co-construire un mécanisme de suivi des absences qui nous permette de détecter beaucoup plus tôt et d'agir en amont auprès de ces élèves-là en le travaillant en collaboration avec les écoles et avec les autres partenaires aussi. Là, tu sais, le CIS pourrait être impliqué, je pense, à Réussite éducative Montcalm éventuellement aussi. Donc, de vraiment le travailler en partenariat.
Voilà, c'est Geneviève Rinfret qu'on écoutait. Elle est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi Montcalm. François Morin lui a parlé. Il est 16h42. Jacques Plante dans un instant.
La Chambre de commerce du Grand Joliette est heureuse d'inviter la population au Salon Rendez-vous commerce présenté par Desjardins du 19 au 22 mars prochain aux Galeries Joliette. Venez magasiner autrement alors que des entrepreneurs en construction, entreprises de services, de santé et beauté, de décoration, de loisirs et plusieurs autres vous attendent dans le cadre de la plus grande foire commerciale de la région. Le Salon Rendez-vous commerce tient à remercier ses précieux partenaires Aspirateur Saint-Charles, Bessette Créateur de confort, Production Méga Animation, Promutuelle Assurance Lanaudière, Chico Joliette et CFNJ.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Saviez-vous qu'un denturologiste conçoit aussi des protecteurs buccaux sur mesure? Étant confectionné avec un système d'aspiration, il permet une protection accrue des dents et des lèvres, en plus de réduire les risques de fractures de la mâchoire et de commotions cérébrales. Étant conçu pour votre bouche, il permet de rester bien en place, ce qui procure un meilleur confort. Il est même prouvé que vous aurez une meilleure oxygénation de vos poumons. Pratiquerez donc votre sport sans désagrément tout en vous protégeant.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus Joliette.com.
Dans la Naudière, on prend le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer, ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
16h44, salut Jacques.
Salut Claude, je suis un peu démobilisé un lundi.
Là. Ah oui? Jacques est là cette semaine en remplacement de Pierre Paquette. Et
notre étudiant qui fait relâche.
Oui. Et plusieurs députés provinciaux, Jacques, préparent leur sortie.
Oui, eux aussi ont décidé de faire relâche. Ben, c'est un peu c'est un peu stratégique si on veut en matière de médias. Parce que l'Assemblée nationale ne siège pas cette semaine. Mm-hmm. Alors, le fait d'annoncer ça, soit par les réseaux sociaux ou encore d'accorder une entrevue à un journaliste, ça fait en sorte que t'es pas pogné dans un scrum à l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
Parce que, bon, il faut respecter ces décisions-là. Elles sont prises de façon éclairée. Deux liens qui rejoignent ces deux personnes-là, ce sont deux personnes issues du monde des médias.
Oui, c'est vrai. On parle de Vincent Marissal et de Caroline Proulx.
Voilà. Ce sont deux personnes également qui ont complété, qui vont avoir complété à la fin du mandat, deux mandats. Ils sont issus de l'élection de 2018 et réélus en 2022.
Donc, ils se rendent jusqu'au bout de leur mandat.
Exact.
Ils auront droit à leur pension.
Ben là, ils vont avoir fait deux mandats, ça veut dire 8 ans, oui.
C'est ça.
Ils vont être éligibles à ça. Il y en a une de ces deux personnes-là qui va sûrement gagner un peu plus cher parce qu'elle a été nommée ministre et non pas l'autre parce qu'il était dans un parti d'opposition. Si on y va avec Mme Proulx, Caroline, députée de Berthier, elle a été, dès la première cuvée en 2018, nommée ministre. Et c'est un peu ce qui a fait sa marque de commerce.
Oui.
Ministre du Tourisme pendant longtemps, avant qu'il y ait un remaniement, là, puis les autres ministères qu'elle a occupés, c'est
plus
de très courte durée.
Plus de 7 ans au tourisme,
quand même.
Et là, ben, elle était ministre de l'Habitation et de la Condition féminine.
Ouais. Un petit passage, ministre responsable du dossier des aînés.
Oui, oui, ça n'a pas été long parce qu'elle a dû prendre une pause, question de santé. Je crois qu'elle était en dépression. Faut appeler un chat un chat.
Elle a vécu un drame, perte de sa mère.
Oui, exactement.
De façon dramatique et tragique.
Et justement, bon, je me dis, oui, elle l'a pas eu facile dans les derniers mois, Caroline Proulx, mais si on regarde... la situation actuelle, les projections dans Berthier, c'est peut-être pour éviter de perdre la face aussi qu'elle ne se représente pas.
Tu sais, il y a tout le côté humain, comme je disais. Là, elle dit oui, je vais compléter mon mandat. Dans le petit mot qu'elle a adressé sur les réseaux sociaux, elle remercie François Legault de lui avoir fait confiance.
Mm-hmm.
Bon, là, on le sait, François Legault décide de quitter. On connaît la débandade à la CAQ. Et comme tu viens de l'évoquer, quand on regarde là, au moment où dans les élections, elle avait quand même eu de bonnes marges.
Évidemment, elle a eu deux belles victoires.
Exact.
Mais là, quand on regarde les projections actuelles pour la circonscription de Berthier, on donne 55 % au Parti québécois, 16 % seulement à la CAQ, 13 % aux conservateurs. Alors clairement, c'est une... cause perdue pour elle. Elle
décision,
le voit très bien. Là.
Décision réfléchie.
Elle n'est pas folle, la fille. Là.
Exactement. Puis c'est drôle, j'allais dire Pierre, c'est drôle, Claude, parce que juste avant d'entrer en studio, je discutais avec Pierre Jubinville, notre journaliste, et il me disait, toi, est-ce que tu irais te présenter si tu verrais que tu es perdant? Non. Quand tu te présentes dans une campagne électorale, l'idée, c'est de gagner.
Et maintenant, par qui? Quel genre de personne va vouloir se présenter là dans Berthier pour la CAQ?
Ben, ça va dans tous les comtés où il y a des candidats ou candidates qui vont décider de quitter. Ça va peut-être être difficile de trouver des
candidats vedettes pour la CAQ, ça va être difficile maintenant. Parce que faut dire que quand même Caroline Proulx est une personnalité issue des médias. Ben, elle était une candidate vedette.
Exactement, et c'est encore un point avec Marissal. Marissal aussi,
un point commun,
journaliste, personne en vedette à QS parce que lui avait le dossier de la santé, notamment.
Oui.
Comme parti d'opposition, il avait affronté le ministre Christian Dubé et il le disait aussi dans l'entrevue qu'il a accordée. C'est à la presse là qui accordait une entrevue.
Puisque c'est un ancien journaliste de la presse.
Exactement. Oui. Il y a encore des bons liens là-dedans.
Oui.
Qui dit qu'il va pas retourner non plus derrière sa plume? Ça se peut, ça.
Mm-hmm.
Hein? Ça se peut fort bien.
Moi, j'ai des réserves là-dessus. Peut-être pas derrière sa plume, mais peut-être au-devant d'une caméra. Je le verrais très bien sur un panel politique,
soit
à RDI ou à LCN. Là.
Oui, oui. Puis souvent, les gens vont retourner, issus des médias, et tu retournes dans les médias. Ça se perd pas. Il a fait bonne figure, comme on parlait de Mme Proulx. Lui aussi était une vedette dans QS.
Là. Dans le cas de Vincent Marissal, il était il est toujours député indépendant, puisqu'on lui a montré la porte à QS. Là.
Ben c'est parce qu'on a eu vent qu'il avait discuté avec Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Ce qui n'a pas été nié par les deux, autant par Marissal que par le Saint-Pierre Plamondon. Et à partir de ça, Ridzicki.
Hein? Marois Ridzicki.
C'est Marois Ridzicki, OK. Je ne vais pas me mélanger avec l'autre au Parti libéral, là. Je te vois chercher.
Marois Ridzicki qui était au Parti libéral.
Non, mais moi, je parle de la celle qui est chef à QS. Là.
Ah, Ruba Gazal.
Ruba Gazal, j'ai souvent tendance à mélanger les deux, tu vois. C'est pour ça que j'hésitais. Elle a décidé de lui demander de quitter.
Mm-hmm.
On lui a demandé de quitter le caucus. Il est devenu donc indépendant. Et là, on se disait, est-ce que finalement...
Il va faire le show au Parti québécois.
Va-t-il y aller ou pas? Et dans sa réflexion, à la lumière de ce qu'il dit, non.
Et c'est un tout autre scénario pour la circonscription de Rosemont, puisque actuellement, selon QC125, c'est très serré entre Québec solidaire et le Parti québécois. On donne 28% au PQ et 29 à Québec solidaire. Ouais. 29 à Québec solidaire, mais ça, c'était peut-être avec ce candidat vedette, Vincent Barrissal. Donc, s'il se présentait comme indépendant, ses chances seraient très, très minces. Quand on n'a pas de bannière politique, on se présente c'est comme indépendant. Compliqué. C'est plus compliqué. Par contre, s'il s'était présenté dans Rosemont pour le Parti québécois, ses chances de l'emporter, peut-être ça aurait été des meilleures chances que pour Caroline Proulx, par exemple, dans la circonscription de Berthier, de faire un retour dans Berthier.
Puis là, là, je spécule parce que peut-être que Plamondon est intéressé à le faire traverser, mais...
Paul Saint-Pierre Plamondon, moi, je crois pas.
Il y en a peut-être à l'intérieur des officines du Parti québécois qui l'ont dit, il est non grata.
Est-ce que tu crois que il y a plusieurs députés qui préparent leur sortie, est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, des transfuges vers le Parti québécois, entre la CAQ et le Parti québécois?
Ben, écoute, on parlait de Vincent Barrissal, ceux qui auront l'occasion d'aller voir l'entrevue qu'il a accordée, il le mentionne dedans, je peux pas le citer mot à mot, là, j'ai lu, dit, quand j'étais journaliste, parce qu'il suivait aussi le monde de la politique, il dit, les transfuges, c'était jamais bien vu. il le mentionne.
Là, j'ai une personne en tête, Bernard Drainville.
C'est en plein la personne que je pensais aussi, de mon côté. Alors, c'est jamais payant d'être transfuge, en quelque part, dans l'opinion publique. Ouais. Alors, lui-même applique ce qu'il mentionne, il décide de se retirer.
À ce moment-là, t'es considéré comme étant un vire-capot. Quoi?
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est caméléon, c'est pas toujours bon en politique. Changer de couleur, je sais
donc,
pas. Ça manque de conviction.
Tu crois pas qu'on aura des transfuges de la CAQ vers le Parti québécois?
Ben, si on a fermé la porte à un gars comme Marissal, on va peut-être fermer la porte à d'autres aussi.
Ben, merci beaucoup, Jacques Plante.
On se retrouve demain, hein?
Oui, il est 16h52.
Lanaudière PM, communautaire.
Le mouvement communautaire régional se prépare à déclencher une grève qui va toucher toutes les organisations au Québec. C'est entre le 23 mars et le 2 avril le prochain. L'objectif, c'est de forcer le gouvernement en place et toutes les formations politiques à se positionner en faveur du rehaussement du financement de la mission communautaire de ces organisations-là. François Morin en parle avec le directeur de la table régionale des organismes communautaires de la Naudière, Hugo Valiquette.
Par la force, vraiment, des organismes qui voulaient organiser la mobilisation, le communautaire à bout, ben, on s'est rendu compte que de fil en aiguille, le mouvement est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Comme tel, ça fait 1-3 semaines là, que la Troquelle est en discussion avec les organismes, organise des discussions, des rencontres avec les groupes. Et déjà, on s'approche du 50 organismes qui ont des mandats de grève officiels en l'espace de vraiment peu de semaines. Donc, c'est dire à quel point le mouvement rassemble et surtout l'objectif est de décrier la situation. On l'a regardé de tous les bords, tous les côtés. Ça fait des années, entre autres, que dans mon rôle de directeur, je parle de ce sous-financement-là. On n'arrête pas de dire qu'on arrive tout le temps sur la limite de ce qu'on est capable de faire. Mais là, je pense qu'on a atteint ce moment-là où les organismes en peuvent plus. Et c'est pour ça que les mobilisations, vraiment là, avec une traînée de poudre, s'organisent comme ça se fait en ce moment.
Je vais faire un petit peu l'avocat du diable. 50 organismes, c'est à peu près le quart de tout ce que compte la Naudière, c'est pas beaucoup.
Ben, en fait, si on considère que les mandats de grève ont commencé à rentrer depuis 3 semaines, tu sais, j'ai envie de dire 50 pendant 3 semaines, puis là, il nous reste 1 mois, j'ai l'impression qu'on risque de faire 1x3, là.
On parle d'un mouvement de grève, mais dans le fond, les services ne sont pas interrompus. On va faire beaucoup de sensibilisation.
Oui, on va faire beaucoup de sensibilisation. Assurément, les programmations des organismes vont être un peu changées pour justement faire ces actions de mobilisation-là. Donc, ça se peut qu'il y ait certaines activités qui n'ait pas lieu de la même façon qu'à l'habitude. Par contre, c'est sûr et certain qu'il y aura personne qui va être laissé dans la rue. Les organismes, en termes de services essentiels, vont ouvrir leurs portes pour les situations particulières. Toutefois, ce que les personnes doivent savoir, c'est que en téléphonant dans un organisme ou en vous présentant, ben, probablement qu'il y aura des actions de mobilisation auxquelles vous serez invité à participer. Puis ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'à chaque fois qu'un organisme ferme ses portes, diminue ses heures, ben c'est souvent la population qui en est les premières personnes concernées. Donc, c'est important que tout le monde qui croit dans l'action communautaire autonome fasse partie de ces mobilisations-là, fasse partie des actions. Puis il y en aura vraiment de toutes les natures, autant pour les personnes qui préfèrent des actions de pression politique, d'autres qui veulent faire de la sensibilisation, d'autres qui veulent faire rayonner la mission d'un organisme. Il y en aura vraiment de toutes les couleurs.
Les organismes, ça fait des années qu'on manifeste, qu'on revendique auprès du gouvernement, mais les bénéficiaires comme tels qui sont directement touchés doivent avoir leur mot à dire.
Oui, exactement, leur mot à dire, puis surtout de rappeler aux gens à quel point c'est important, puis à quel point les organismes communautaires autonomes changent la vie de ces personnes-là. On l'a vu dans d'autres pressions politiques dans les dernières années, quand la population parle pour les organisations, ben c'est sûr que ça fait une super grande différence. Donc, on en est là. Puis, les organismes sont des rassemblements de citoyens à la base même dans leur histoire comme organisation. Donc, c'est vraiment ça aussi qui va être mis en lumière dans les deux semaines de grève du 23 mars au 2 avril.
Le message, évidemment, s'adresse à tous les partis politiques parce qu'il y a un contexte électoral. Est-ce qu'on a confiance que le message va se rendre à bon port?
Ben, en fait, actuellement, on voit déjà qu'on est juste dans la préparation, puis qu'il y a de plus en plus d'élus qui prennent la parole aux côtés du mouvement communautaire avant même qu'on soit dans les actions de mobilisation. Donc, le fait qu'on voit ces élus-là commencer à prendre parole à côté des organismes, ben c'est déjà une bonne nouvelle. Et aussi déjà certains autres élus qui n'ont pas nécessairement été rencontrés des organismes, mais répondent aux différentes pressions qui apparaissent grâce aux différents médias qui font des portraits de la situation, ben c'est sûr que ça aussi, ça nous aide. Donc, on sent actuellement, on est à 3 semaines, 1 mois de l'événement, donc on sent déjà que ça dérange, on sent que ça inquiète aussi. Il y a des élus qui se demandent qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 semaines-là pour les personnes si les organismes répondent pas aux besoins. Ben justement, c'est exactement cette pression-là qu'on a besoin de mettre pour faire entendre la situation. On est à l'aube, oui, de la campagne électorale, d'un prochain budget. C'est primordial que les organismes aient accès à un rehaussement de leur financement. La situation s'est aggravée dans les particulièrement 2 dernières années. Les coûts de la vie, les personnes qui sont dans les organismes communautaires autonomes ont besoin que leur salaire augmente. Tout coûte plus cher, les loyers, l'Hydro-Québec et tout ça, ben les organismes sont frappés de plein fouet. Puis en plus, on s'attend à ce qu'ils répondent sans interruption, on s'attend à ce qu'ils soient toujours présents. Ben à un moment donné, ça a ses limites.
En terminant, est-ce qu'effectivement, il y a des organismes qui ont dû réduire leurs activités faute de financement?
Ah ben oui, dans les 2 dernières années, on a vu l'impact où des organismes ont dû arrêter certains projets qu'ils réalisaient faute de financement, ont dû couper des heures parce qu'ils étaient plus capables de maintenir des équipes au nombre actuel d'employés à cause du financement qui augmentait pas. On voit l'impact est déjà présent depuis quelques années. Les personnes qui vont dans les organismes le voient, que ce soit des paniers de dépannage qui diminuent faute de dons ou faute de coûts d'achat des denrées. Il y a plein de situations qu'on a décriées depuis les dernières années qui impactent actuellement les personnes. C'est pas de la prévision, là, c'est la vie que les organismes vivent actuellement.
Voilà, c'était Hugo Valiquette, directeur de la table régionale des organismes communautaires avec qui François Morin s'est entretenu un peu plus tôt. Il est 16h58. Oh, c'est fini le changement d'heure pour la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique qui vient d'adopter l'heure d'été de manière permanente. Alors, on va changer l'heure une dernière fois pour passer à l'heure d'été, puis ensuite, on change plus l'heure du côté de la Colombie-Britannique. C'est peut-être une bonne idée. Moi, j'adopterais l'été à l'année longue, tant qu'à moi. Bon, merci à nos collaborateurs Mathieu Bélanger, François Morin, Pierre Jubinville ainsi que Jacques Plante. Ici Claude Fournel, passez une belle soirée. Nicolas Bellemare s'amène pour vous présenter le 5 à 7 trad. Nous, on sera là demain 16h pour un autre rendez-vous de Lanaudière PM. Salut!